Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en Terre de Couleur. Une émission réalisée par Corinelle. En Terre de Couleur vous propose de flâner sur les traces d'un peintre à travers son histoire, son œuvre, ses musées. Je vous souhaite un agréable voyage dans l'univers de la peinture et spécialement pour cette série, au cœur de l'impressionnisme. Une touche de jaune de cadmium, un trait de Carmen Garance, une pointe de bleu de Prusse, un soupçon de blanc de titane, et voilà, la palette est prête. Prenons nos pinceaux, la toile encore vierge, et posons notre chevalet en terre parisienne. Bienvenue chez Oscar-Claude Monet, peintre français, Paris 1840, Giverny 1926. Claude Monet commence à récolter le fruit de son talent. Les critiques sont plus élogieuses et il peut se permettre maintenant de choisir ses galeristes et expositions.
Une excursion en Creuse.
À la mi-février 89, il se rend en Creuse sur l'invitation du poète Maurice Rollinat pour un court séjour. Il est accompagné de Gustave Geffroy, journaliste, Louis Mulhem, auteur de théâtre, et de Franck Jourdan, architecte. Simultanément, se précise l'idée d'une double exposition, Monet-Rodin, chez Georges Petit. En effet, dans un courrier en date du 28 février 88, le peintre écrit au sculpteur à propos de ce souhait.
« Rien que vous et moi, nous pourrions faire quelque chose de bien à nous deux. »
Un énorme travail de préparation et de tractation est en cours de la part des trois participants. Séduit par les paysages creusois d'un précédent voyage et pourtant ralenti par les contretemps de la préparation de l'exposition à venir, non-réponse de Rodin, rendez-vous manqué avec Petit, Monet prend le train de nuit le 6 mars et arrive chez Rollinat à Fresselines en Creuse le lendemain. Après avoir conquis le tout Paris, l'écrivain s'y est retiré dans une maison isolée. Monet se met immédiatement au travail et s'installe au confluent de deux vallées, la Petite Creuse et la Grande Creuse. Tout n'est que ravins, méandres, gorges et rivières tumultueuses. Monet, une fois de plus, se confond aux caprices de la nature du plein hiver. Tempête, vent, pluie glaciale et un soleil se couchant de bonne heure. Cette sauvagerie des éléments n'est pas sans rappeler la Bretagne. C'est ainsi qu'il se confie à Berthe Morisot le 8 avril 89.
Me voici encore en prise avec les difficultés d'un pays nouveau. C'est superbe ici, d'une sauvagerie terrible qui me rappelle Belle-Île. Je croyais que j'allais y faire des choses étonnantes, mais hélas, plus je vais, plus j'ai de mal à rendre ce que je voudrais.
Claude Monet commence à peindre un même point de vue à différentes heures de la journée, selon la luminosité et la météo. Ainsi, il va nous transmettre 9 tableaux du ravin de la Creuse, masse de rochers imposantes sur la toile, laissant peu de place au ciel, d'une austérité saisissante. Monet le reconnaît lui-même dans une lettre à Alice.
« Je suis terrifié en regardant mes toiles de les voir si sombres. Avec cela, plusieurs sont sans aucun ciel. Ça va être une série lugubre. »
Pour la première fois, le peintre emploie le mot « série », même si par le passé, il s'est déjà essayé à peindre un même motif plusieurs fois, tels les coquelicots, la gare Saint-Lazare, les falaises de Normandie, pour ne citer que. Ici, la vue reste identique. Seul l'éclairage, l'atmosphère diffère. Nous retrouvons Ravin de la Creuse au déclin du jour, musée des Beaux-Arts Reims. Vallée de la Creuse effet du soir, musée Marmottan Paris. La Vallée de la Creuse soleil couchant, musée d'Unterlinden Colmar. La Creuse soleil couchant, collection particulière. Ravin de la Creuse ciel gris et Ravin de la Petite Creuse, musée des Beaux-Arts de Boston. La Creuse, au ton bleu, tantôt rosé, jaune, se ferait un chemin sinueux à travers les blocs sombres des rochers, ponctués de mauve, d'oranger, sous un ciel tout aussi coloré parfois. Ce séjour creusois aura été éprouvant pour le peintre, tant moralement que physiquement. Toujours dehors, en lutte contre les éléments indomptables d'une nature sauvage, laissant Alice seule à Giverny, broyant du noir, jalouse, aux prises avec les soucis domestiques de tout ordre.
« Vous avez tort de vous creuser !»
lui écrit-il le 21 mars. À cela, il faut rajouter les soucis de l'exposition à préparer. Hésitation, exigence pécuniaire de Petit, changement de date. Dans toute cette hâte du mois d'avril 89, il en oublie la permission de son fils Jean militaire et l'invitation de Whistler. Eugène Boudin lui fait part du décès de sa femme. Après un long silence envers lui, Monet lui répond.
« J'ai bien des reproches à me faire à votre endroit, je me les fais bien souvent. » Ne m'en gardez pas rancune, mon cher ami.
À la mi-mai, il rentre épuisé à Giverny, avec une vingtaine de tableaux de la Creuse.
L'exposition Monet-Rodin.
En vue de cette double exposition, Claude Monet se rapproche de Durand-Ruel et lui en parle le 1er mai en ces termes.
Il s'agit d'une exposition que j'ai accepté de faire chez Petit, moi seul peintre, et Rodin sculpteur. C'est une grosse affaire. Exposition durant 3 mois, pendant l'exposition universelle, et en vue du public étranger qui sera à Paris. Il me faut donc un certain nombre de tableaux, voulant montrer le choix de tout ce que j'ai fait, et avec les choses nouvelles que je vais apporter. Je viens donc vous demander votre concours. Cette exposition peut avoir un certain succès, et sera pour vous une chance de vente.
Le salon commence donc le 21 juin, au 8 rue de Sèze, chez Georges Petit. Y sont présentés 145 tableaux du peintre datant de 1864 à 89 et 36 œuvres d'Auguste Rodin. Durand-Ruel y présente même quelques pièces de sa galerie. Monet installe ses toiles seules, sans concertation avec Rodin, absent le jour de l'accrochage. Rodin place ses sculptures au dernier moment, sans se soucier des tableaux. C'est ainsi que le jour de l'ouverture, Monet, déçu, se plaint à Petit.
« Mon panneau du fond. » Le meilleur de mon exposition est absolument perdu depuis le placement du groupe de Rodin. Le mal est fait. C'est désolant pour moi.
Monet n'aspire qu'à une chose, prendre le chemin de Giverny et y trouver le calme. D'autant plus que Rodin s'est écrié.
Je me fous de Monet. Je me fous de tout le monde. Je ne m'occupe que de moi.
La sculpture en question n'est ni plus ni moins que les bourgeois de Calais, un groupe de 5 statues en pied. Octave Mirbeau signe la préface sur Monet, tandis que Gustave Giffroy exécute celle de Rodin. La presse dans l'ensemble est plutôt favorable, mais surtout pour Rodin, comparé à Michel-Ange. Quelques critiques s'élèvent, traitant Monet de daltonien et Rodin de sculpteur, d'abaisser la nature et de la rendre aussi laide que possible. Seul, Octave Mauss, chroniqueur, est attentif à la peinture de Monet. Ce dernier est déçu. Le public n'est pas au rendez-vous, préférant le Champ de Mars et sa grande dame, la Tour Eiffel, construite tout spécialement pour l'exposition universelle de 89. Zola, Charpentier, l'éditeur, Goncourt, en profitent pour y prendre l'ascenseur et dîner sur sa première plateforme. Octave Mirbeau essaie de consoler Monet dépité.
« Ne vous désolez pas, l'insuccès n'est qu'apparent. Le peu de public tient à l'ouverture tardive et au manque de préparation de la part de Petit. Ayez encore un an de patience. Vous êtes taillé physiquement et moralement pour supporter cela. » Prenez vos bottes, votre béret, votre chevalet et plongez-vous dans le travail. L'Olympia de Manet.
Parallèlement à la rétrospective Monet-Rodin, a lieu en mai 89 l'exposition centennale de l'art français au Palais des Beaux-Arts, érigée au pied de la Tour Eiffel, lors de l'exposition universelle inaugurée par Sadi Carnot, président depuis 87. En fait, deux manifestations se côtoient, puisqu'une décennale y est aussi ouverte, rassemblant des œuvres françaises et étrangères des 10 années précédentes. Lors de l'exposition centennale, le public peut admirer des toiles de David, Géricault, Delacroix, Corot, Courbet, 3 paysages de Monet, 14 Manet, dont l'Olympia. Ce tableau représente une femme blanche, dévêtue, allongée sur un lit, auprès duquel se tient une servante noire, un bouquet de fleurs à la main. Cette toile fit scandale au salon de 65. Afin de rendre hommage à Édouard Manet et soustraire cette œuvre à un éventuel acquéreur américain, Monet et quelques amis, dont Sargent, décident d'ouvrir une souscription de 20 000 francs afin d'acheter le tableau à sa veuve et l'offrir au Louvre. Démarches, discussions, courriers, péripéties, ententes avec les membres de la famille de Manet, Eugène, son frère, Berthe Morisot, sa femme, Suzanne, la veuve, occupent Claude Monet qui a pris la direction de cette souscription. Il s'inscrit pour 1 000 francs, ainsi que Sargent, Caillebotte, Duré, pour ne citer qu'eux. Geoffroy, journaliste, mal rétribué par son journal et mal armé, simple professeur d'anglais, ne donne que 25 francs. La première déception vient de Zola, qui refuse de s'associer aux souscripteurs.
C'est chez moi un parti pris absolu de ne pas acheter de peinture, même pour le Louvre. Manet ira au Louvre, mais il faut que ce soit de lui-même, en pleine reconnaissance nationale de son talent, et non sous cette forme détournée de cadeau qui sentira quand même la loterie et la réclame.
D'autres déconvenues arrivent, et pas des moindres. D'une part, celle de l'administrateur des Beaux-Arts. En effet, un artiste ne peut entrer au Louvre qu'à partir de 10 ans après sa mort. Or, Manet est décédé depuis seulement 6 ans. D'autre part, le second obstacle vient d'Antonin Proust, ancien ministre des Beaux-Arts sous Gambetta et commissaire de l'exposition universelle, qui s'oppose violemment à une telle entrée au Louvre.
Dans tous les cas, Ce n'est pas l'Olympia que je voudrais voir dans notre musée. »
Après bien des querelles, des palabres, Monet réussit à faire entrer l'Olympia de Manet au musée du Luxembourg. À Armand Falière, ministre de l'Instruction publique, le 7 février 90, il s'exprime ainsi.
« Monsieur le ministre, au nom d'un groupe de souscripteurs, j'ai l'honneur d'offrir à l'État l'Olympia d'Édouard Manet. »
Le tableau ne sera transféré au Louvre qu'en 1907, sous l'impulsion de Clémenceau.
Les séries.
Après s'être donné corps et âme dans cette bataille de l'Olympia, Claude Monet se remet difficilement à la peinture, découragé par les caprices d'un été nuageux, pluvieux. La faute à la tour Eiffel, qui attirerait les orages, d'après Edmond de Goncourt. L'atmosphère ambiante n'est pas des plus sereines. Épidémie de grippe, tension avec l'Allemagne, manifestation du 1er mai des travailleurs. Monet souffre désormais de quelques rhumatismes à sortir par tout temps. Pourtant, il retrouve la joie de peindre, prenant la campagne pour modèle. C'est ainsi que des champs de coquelicots, bordés de peupliers, apparaissent sur 5 toiles, suivis des champs d'avoine de la plaine des Essarts. Maintenant, la campagne est vierge de tout personnage, contrairement au tableau des coquelicots de 73-75 avec Camille et Jean. Les fleurs sont à présent suggérées par des taches de couleur rouge, se fondant dans le vert de la prairie. À voir, champ aux coquelicots, à l'Institut des Arts de Chicago, ou le champ d'avoine aux coquelicots, au Musée d'Art Moderne de Strasbourg.
Voyage en terre de couleurs.
À une soixantaine de kilomètres de là, à Auvers-sur-Oise, ce 27 juillet, un homme erre dans la campagne à travers champs. Il sort un revolver de sa poche et se tire une balle dans la poitrine. Le peintre Vincent Van Gogh vient de se suicider. Fin août, Monet rend visite à son fils Jean, hospitalisé au Havre pendant son service militaire. La météo est toujours aussi mauvaise. Monet, aussi pessimiste, s'exprime ainsi dans une lettre à Geffroy.
J'ai beaucoup travaillé pour faire peu de choses. Le temps était bien mauvais pour la peinture et n'ai pu songer à mes figures. Je m'acharne sur quelques paysages et c'est tout. Car plus je vais, plus je suis difficile et plus il me faut de temps pour arriver à rendre ce que je voudrais.
Les meules.
En cette fin d'été, Monet va trouver l'inspiration devant les tas de meules du Clos Morin, à quelques pas de chez lui. Comme tous les ans, Kerhuel, le fermier, entasse ses gerbes de blé en attendant l'ébattage. Il ne peut se douter qu'elles vont devenir l'obsession de Monet. Une vingtaine de toiles des meules vont surgir du champ, sous des lumières, des saisons différentes. Tonalités froides, bleutées, ou chaudes, jaune-orangées. Une succession de couleurs enchante l'œil. Des pointes de pourpre, de rose, se mêlent aux touches de vert et lilas. Allons de ce pas du côté du musée, admirer ses chefs-d'œuvre.
Du côté du musée.
L'Institut de l'Art de Chicago en possède plusieurs versions. Meule et fées de neige sont couverts. La meule, au ton rouille, se détache d'une colline bleue. En arrière-plan, les peupliers et les maisons aux couleurs terre de sienne, aux toits enneigés. La terre gelée est traduite par des empattements blanchâtres, bleus, veinés de marron. Le ciel est blafard à l'image du champ. Meule dégèle soleil couchant. Une meule orangée sur un sol enneigé dans une atmosphère bleutée. Meule fin de l'été, fée du soir. Deux meules dans une ambiance violacée. Au musée d'Orsay, à Paris, meules fin de l'été, fées du matin. Deux meules au sommet rosé, éclairées par le soleil matinal, posées sur un champ vert bleuté rayé de traînées jaunes. Les couleurs se fondent les unes aux autres. Ces tableaux sont conçus sur un même schéma. Une ou plusieurs meules au premier plan, derrière lesquelles se dessine le hameau, la colline puis le ciel. Les ombres sont plus ou moins allongées, marquées, selon la course du soleil. Les meules se parent de tons orangés flamboyants ou de terre de sienne, posées sur un champ vert jaune ou blanchâtre selon les saisons. Quant à la meule et fée de neige le matin, vous la trouverez au musée des Beaux-Arts de Boston. Claude Monet réussit à traduire la lumière et l'ambiance de fin d'été et d'hiver. En juillet 90, Mallarmé écrit au peintre.
« Vous m'avez ébloui récemment avec vos meules, Monet, tant que je me surprends à regarder les champs à travers le souvenir de votre peinture, ou plutôt, il s'impose à moi tel. »
Notre voyage se termine donc pour aujourd'hui au Clos Morin. Je vous invite à le poursuivre très prochainement sur un triomphe pour Monet, après des années de sacrifice. Voyage en terre de couleurs, un programme Maurice Clément Fèvre. Technique, participation, Pascal Laurière.